La vérité, nous la considérons généralement comme un concept à dépasser. Le monde passe par un nombre incalculable de tumultes dont la source réside dans la méprise de la vérité. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons de la vérité. Je crois qu'il y a une phrase biblique qui dit: Connaissez la vérité et elle vous affranchira. Mais qu'est-ce que c'est que la vérité? Comment l'aperçoit-on? La vérité, c'est le contraire du mensonge, n'est-ce pas? Techniquement, oui, mais véritablement, les choses ne sont pas aussi simples. Bien que la vérité fasse partie de ce mystérieux dualisme auquel beaucoup de concepts existentiels appartiennent, eh bien, elle a quand même une essence profonde. Une signification qui en fait la raison principale pour laquelle on pourrait la situer par rapport au mensonge et le mensonge par rapport à elle. En gros, le dualisme qui existe entre les deux concepts est basé sur le fait que les deux concepts se valent. Le mensonge est une évolution négative de la vérité. À la base, les deux concepts suivent simplement deux chemins différents, deux chemins inverses, mais sont sur la même ligne. Il n'est pas essentiel ici de faire appel à l'éthique en jugeant que le mensonge est une mauvaise chose. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Nous allons simplement essayer d'être neutres et de partir du fait simplement que le mensonge est une assertion déguisée de la réalité, alors que la vérité est une assertion honnête de la réalité. Mais la question est celle-ci. Par rapport à qui ou à quoi cette assertion de la réalité est-elle faite? L'existence dans laquelle nous vivons a été créée par ce qu'on appelle le logos. Le logos peut être défini de plusieurs manières. En rhétorique, le logos représente un tiers des éléments nécessaires pour une bonne rhétorique. Le pathos et l'éthos en sont les deux autres éléments. Ici, ces deux derniers éléments ne nous intéressent pas en tant que tels. J'y fais référence simplement puisque j'ai parlé de la rhétorique. Alors, le logos, disais-je, vient de l'ancien grec qui se traduit littéralement mot ou raisonnement ou encore discours. Ça, c'est ce à quoi le logos fait référence dans le domaine de la rhétorique. Mais en philosophie, il veut dire mot divin ou parole divine. À cause des implications métaphysiques que ce mot a, les théologiens disent que c'est le logos qui a créé toute vie sur terre. Nous nous rappelons aussi les paroles bibliques où Dieu dit que telle chose soit, puis la chose fut, n'est-ce pas? En gros, Dieu a parlé dans ce qui est vide, puis de ce qui est vide est né quelque chose. C'est-à-dire les eaux, le feu, la terre, les arbres, la lumière du soleil et toutes les choses qui forment notre réalité. Notez bien que j'ai dit notre réalité. Notre réalité, c'est la perception dans laquelle nous vivons. La vue qu'indépendamment de toute altération, quelle qu'elle soit, nous avons de ce qui nous entoure. Dans un environnement donné, quand il fait 2 degrés en dessous de zéro, il fait 2 degrés en dessous de zéro pour tout le monde. Cela, c'est la réalité. Parce qu'elle n'est pas altérable selon le bon vouloir de chacun. Si nous vivons dans le même quartier, et que le thermomètre indique moins 2 degrés, ben toi tu ne peux pas décider qu'il fait 10 degrés au-dessus de zéro, puisque tu ne commandes pas la nature. Qu'on le veuille ou pas, la chose est telle qu'elle est pour le moment. Jusqu'à ce que la nature décide qu'il en soit autrement, eh bien, le thermomètre va toujours indiquer 2 degrés en dessous de zéro. Ainsi, le principe créateur, c'est-à-dire le logos, qui a engendrer l'existence de notre réalité ne s'est pas basée sur une perception subjective, parce que selon les cas, la nature est pareille dans tous ses contours. Elle n'agit pas différemment de ce qu'elle aurait été dans une autre circonstance. Elle est juste ce qu'elle est et c'est tout. Par abus de langage parfois, on dit que la nature est clémente ou qu'elle est hostile. Mais elle n'a jamais été quoi que ce soit. Elle est juste basée sur un mode opératoire qui ne dépend pas des perceptions différentes des éléments qui la constituent. Posez-vous la question de savoir, est-ce que la nature sait qu'il fait beau quand nous autres humains, nous disons qu'il fait beau, qu'il fait frais, chaud? Non, elle ne sait pas. Elle ne sait même pas que nous pensons qu'elle change, puisque pour elle, elle n'est que ce qu'elle est, sans volonté d'être bonne ou mauvaise. Qu'il fasse froid ou chaud, c'est juste la nature de la nature, sa nature profonde, rien de plus, rien de moins. Mais vous me demanderez, mais comment le logos est-il relié à tout cela? On l'a dit plus tôt, le logos, c'est le principe masculin, c'est-à-dire le principe qui vient d'engendrer et fournir la source de l'existence. Le fait est que s'il y a existence d'un principe mâle, c'est que forcément, pour que le processus de création soit complet, il doit y avoir aussi un principe femelle. Et ce principe femelle ici, c'est le néant. En gros, si nous devons simplifier les choses, nous dirons que notre réalité est née d'une fusion entre le tout et le rien. Donc, notre réalité est la matérialisation du tout et du rien mis ensemble. Ce tout et ce rien, c'est Dieu d'un côté comme de l'autre. Dieu a prononcé la parole, c'est-à-dire la source de tout ce qui existe. C'est-à-dire encore le tout lui-même qui a engendré le néant pour donner tout ce que nous expérimentons. Ces deux éléments, à très peu de choses près, c'est ce que Spinoza appellera la nature naturante et la nature naturée. La nature naturée pour lui, c'est l'ensemble de tous les êtres humains, les lois et tout ce qui nous entoure et que nous pouvons appeler nature. Et la nature naturante, c'est la cause de toute cette existence. Moi ici, je remplace simplement, sans me comparer à Spinoza bien sûr, vous comprendrez mon humilité, je remplace simplement le fait que la nature naturée de Spinoza étant pour lui les éléments dont la nature est faite, avec ses lois même, par la virginité propre de cette nature, c'est-à-dire son caractère en tant que néant, avant que le principe mâle s'y soit confondu pour créer la réalité que nous connaissons. Maintenant, cette réalité nous y appartenant, n'est-ce pas? Puisque nous avons été créés au même titre qu'elle. Nous sommes comme les arbres, les animaux, les choses, et nous sommes tous des éléments de la réalité que nous percevons autour de nous. Mais la différence ici est que, contrairement à tous les autres éléments qui font partie de cette réalité, nous sommes dotés d'un organisme mental qui nous permet de nous faire une vision variée de cette réalité. Et cet organisme, c'est la conscience. La conscience ici, c'est l'élément qui nous rend inaccessibles au mutisme mental. Nous réfléchissons, percevons, pensons simplement parce que nous sommes des êtres dotés de conscience. Nous n'agissons pas uniquement par instinct. Le fait que nous usions de cette conscience constamment, même à notre propre insu, fait que nous dépeignons de la réalité un aspect qui dépend de nos tendances mentales et émotionnelles personnelles. La conscience n'est pas juste l'élément qui nous rend spécial et actif cognitivement. Elle est l'idée propre même du spécial qui meut chacun de nous. Elle est la représentation nucléaire du logos en chacun de nous. Entendez, le noyau qui anime chacun de nous. C'est cela la conscience. En d'autres termes, si le logos est retiré d'un être pensant, eh bien, il arrête d'être un être pensant et descend au rang des autres espèces et à certains égards même plus bas que les autres espèces. Il meurt ou devient inactif. Vous imaginez un être sans conscience, n'est-ce pas? C'est-à-dire un être sans cognition. C'est un végétal sur pied. Il n'est en rien différent d'un mort. Mais là, vous me direz, ah ben pardon. Mais dans ce cas, est-ce que cela veut dire que les arbres aussi ont une conscience? Des animaux et tout. Moi, je dirais, ouais. Conscience, pas conscience de jugement, mais conscience de vie. Je m'explique. La conscience, quand elle s'exprime dans un être vivant, c'est de la manière dont le principe créateur pense qu'elle doit s'exprimer. Ce principe créateur, donc, donne à l'être humain la conscience de lui-même. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Je dis, la conscience, quand elle s'exprime dans un être vivant, c'est de la manière dont le principe créateur pense qu'elle doit s'exprimer. Le principe créateur, c'est Dieu. Le principe créateur, c'est la conscience elle-même. Donc, la conscience décide elle-même de la façon dont elle doit s'exprimer dans un être humain. Enfin, dans un être vivant, plus précisément. Ce principe créateur donne à l'être humain la conscience de lui-même. Mais aux autres êtres, la conscience instinctive de l'existence. C'est une conscience presque mécanique. Les végétaux et les animaux vivent en conscience parce que c'est ce qu'ils sont supposés faire. On pourrait aller jusqu'à dire même que la conscience des humains aussi, elle est mécanique. En cela que les humains sont dotés de la conscience pour que celle-ci les rende actifs dans la vie. Et remarquez avec moi que c'est justement ce qui se passe. Les humains dotés d'une conscience sont actifs dans la vie. Donc, pour l'équilibre du cosmos, le logos ne peut pas s'exprimer de la même manière dans tous les éléments qu'il crée. Sinon, ce serait la pagaille, n'est-ce pas? C'est cette diversité calculée qui fait l'équilibre de la réalité à laquelle nous appartenons. Cependant, l'expression de la conscience, du logos donc, dans l'être humain, lui permet d'avoir une conscience de sa propre réalité, de la réalité qu'il a en commun avec les autres êtres humains, puis de lui-même en rapport à ces deux réalités. Et c'est là où le bât blesse. C'est là que les problèmes commencent. Vous rappelez-vous d'un épisode précédent dans lequel je parlais d'une pseudo-réalité, puis de la vraie réalité, qu'on pourrait facilement nommer ici la réalité transcendante? Bien, maintenant, contemplez l'être humain doté d'une conscience, d'une partie du logos donc, qui lui permet d'avoir une perception de la réalité qui a été au même moment que lui créée, puis de la réalité qu'il crée en tant qu'être actif doté du logos. Le pauvre n'a pas beaucoup de choix. Il est obligé de se créer une perception de tout ce carcan. Une perception qui l'arrangerait dans sa fragilité pour qu'il ne perde pas la raison. Parce que c'est difficile de dénouer tout ça. Rappelons-nous que la pseudo-réalité, c'est la réalité physique d'une personne, reproduite de son unique point de vue en considération de son état mental, sa perception mentale et les effets que ces choses-là ont sur la réalité transcendante. En d'autres termes, la pseudo-réalité, c'est un peu comme une tache que laisse le logos qui agit au travers de l'être humain sur la réalité transcendante. De l'autre côté, la réalité transcendante, on sait déjà ce qu'elle est. On sait que c'est le rassemblement de données figées qu'expérimentent tous les êtres humains, soit identiquement, soit différemment. Cela veut dire que les données de la réalité transcendante ne changent pas selon l'humain qui l'expérimente. Mais cet humain, dépendamment de sa perception, peut se faire une expérience différente de cette réalité. En exemple, je dirais que quand il fait 2 degrés en dessous de zéro, quelque part, il fait 2 degrés en dessous de zéro pour tout le monde. Mais l'expérience du froid ne sera pas pareille pour tout le monde. D'autres auront plus ou moins froid que d'autres. Voilà la réalité. Bien, la séparation entre ces deux réalités vient du fait de la conscience que l'homme a de lui-même, puis de la conscience qu'il a de la réalité transcendante, et enfin du fait que sa conscience de lui-même peut créer une pseudo-réalité s'il applique cette conscience à la réalité transcendante. Plutôt, Dieu disait que la vérité et le mensonge sont deux assertions de la réalité. Donc, la première étant celle honnête et la deuxième étant celle déguisée. Comprenez déguiser ici littéralement, c'est-à-dire changer l'apparence, travestir une chose de sorte à la rendre méconnaissable. Donc, le mensonge n'est pas simplement le contraire de la vérité. C'est surtout le déguisement de la vérité. Donc, quand on essaye de rhabiller la réalité transcendante dans le but de se persuader soi-même dans sa pseudo-réalité ou dans le but plus mesquin encore d'agir sur la pseudo-réalité d'autres personnes, c'est ça le mensonge. Dans ce cas, inversement, la vérité, c'est le caractère réel sans filtre de la réalité. C'est ce qui est réel, ce qui est tangible, ce qui est inchangé, ce qui est inaltéré, ce qui est vrai. La différence entre les deux, ce ne sont pas juste les sens différents dans lesquels ils vont, c'est aussi l'effort conscient d'altération qui donne vie au mensonge, alors que la vérité naît juste avec la réalité. Notez que j'ai parlé d'effort conscient. L'effort conscient, qui peut le fournir? Eh bien, c'est un être doté de conscience, n'est-ce pas? L'être humain. Le seul être vivant qui a la conscience de l'action qui peut exister sur la réalité à partir de sa conscience de lui-même. Donc, quand je posais plutôt la question de savoir par rapport à qui ou à quoi cette assertion de la réalité est-elle faite? Maintenant, la réponse est là. C'est par rapport à l'humain. C'est par l'humain que cette altération est faite. Et la question qu'on se poserait ici serait: et pourquoi l'humain altère-t-il l'assertion correcte de la réalité? La réponse à cette question est cachée encore dans la question, puisque la raison pour laquelle l'humain altère l'assertion correcte de la réalité, c'est justement parce qu'il est doté d'une conscience qui lui permet aussi de juger cette réalité et de remarquer ses propres inadéquations par rapport à elle. Car rappelez-vous que la réalité est parfaite telle qu'elle est. Quand on y pense bien, pourquoi désire-t-on déguiser une chose? Eh bien, c'est parce que l'on ne voudrait pas que cette chose soit reconnue. Peut-être parce qu'on craint qu'elle soit reconnue ou qu'on est honteux que les autres humains aient une perception négative de cette chose-là. Une perception aussi négative ou peut-être plus négative même de cette chose-là que celle qu'on en a soi-même. Pensez aux habits et à la raison pour laquelle on en porte. On porte les habits pour couvrir notre nudité, n'est-ce pas? Mais la nudité, qu'est-ce? C'est notre vulnérabilité, notre faiblesse, notre réalité dans son extrême brutalité. Et cette réalité, elle s'offre à nous, sans filtre, sans couleur ajoutée, sans remaquillage. L'être humain, en tant qu'il fait partie de cette réalité, n'est cependant pas imparfait. Car rappelez-vous qu'il a été créé sur le portrait de la perfection, puisque justement, sans la perfection du contenant qu'est la partie, qui est l'être humain, eh bien, le tout qu'est la réalité elle-même ne peut pas être parfait. Or, la réalité est parfaite, donc il n'est pas possible que l'humain qui soit une partie de cette réalité soit imparfait. L'idée d'imperfection que veut déguiser l'humain vient juste du fait qu'il soit doté d'une conscience qui lui permette d'observer et de juger si ou non les choses sont à son goût. Pour la plupart du temps, il décide que non. Il décide qu'il est vulnérable et qu'il veut déguiser sa réalité. Alors, il ment. Il altère la réalité et s'en crée un autre narratif. Il se ment à lui-même. Mais pire, il ment à son entourage. Il se déguise vis-à-vis de lui-même car il craint de s'accepter. Il a peur de ce que pourrait cacher cette acceptation de lui-même. Regardez autour de vous. Les femmes se refont les seins. Elles se plastiquent les fesses. Certains hommes se refont des abdos chirurgicalement. Certains autres se refont les jambes pour être plus élancés. Tout le monde craint la réalité et donc on veut la changer. Les femmes craignent de ne pas être assez belles. Elles craignent leur réalité. La vérité, messieurs, c'est vous. C'est votre réalité. Celle qui s'offre à vous sans couleur. Elle est morne. Elle est froide. Elle est douloureuse. Elle vous crève l'œil. Elle vous fait peur. Mais c'est là votre vérité. Quand vous vous mettez nu devant le miroir, ce que vous voyez, sans soutien-gorge, sans string, sans boxeur, sans crème solaire, sans opération chirurgicale, eh bien, c'est vous. Tant que vous la refoulerez, tant que vous ne l'aurez pas acceptée, vous continuerez de mentir. Mentir au monde entier, mais pire, mentir à vous-même. Vous ne le faites peut-être pas exprès, mais vous mentez quand même. Et le problème avec le mensonge, c'est qu'il finit toujours par perdre son déguisement. Et là, la vérité est exposée. Alors, explorez votre vérité, contemplez votre âme, comprenez votre vérité. Qui êtes-vous? Que représentez-vous pour vous-même? Votre âme est-elle droite? Vit-elle correctement en vous? Vous ne mourrez pas juste de la mort comme vous le pensez. Vous pouvez mourir aussi de votre mensonge. Quand vous forcez votre âme à vivre une assertion de la réalité qui n'est pas conforme à celle qui, à la base, est la constitution de ce que le Logos a soufflé en vous. L'existence dans laquelle nous vivons peut être confondante si l'on néglige constamment sa vérité. Découvrez la vôtre. Acceptez-vous. Vous verrez que votre chemin s'ouvrira grand devant vous. Soyez sincère avec vous-même. Le secret de la paix, il est là. L'homme qui connaît sa propre vérité ne se laissera jamais piéger par le mensonge d'autrui. L'homme qui connaît sa vérité est toujours en accord avec l'univers. L'homme qui connaît sa vérité est toujours en accord avec Dieu. L'homme qui connaît sa vérité et l'accepte du plus profond de son âme sera heureux. L'homme qui connaît et accepte sa vérité est en accord avec la réalité transcendante. Il va vivre des torts des autres humains qui mentent, mais il ne perdra jamais face à la vie. N'oubliez pas la parole. Connaissez la vérité et elle vous affranchira. En attendant, moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Icepod. Je vous revois la semaine prochaine. À plus. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié cet épisode ou n'importe lequel des autres que j'ai pu mettre à votre disposition jusque-là. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire un don de n'importe quelle nature qu'il sera. Je suis disposé à le recevoir. Nous avons besoin de tout le support que nous pouvons avoir pour faire grandir cette chose que nous sommes en train de faire ici. Bientôt, nous aurons une page Patreon sur laquelle vous pourrez avoir accès à des épisodes plus exclusifs. Nous aurons aussi une page YouTube sur laquelle vous pourrez voir ma vilaine face. Et bientôt, il y aura une page Instagram sur laquelle nous pourrons interagir de façon moins figée. Alors, d'ici là, portez-vous bien.